RCF.
Bonjour à tous et bienvenue dans Effervescence, le magazine de l'étonnement culturel. J'espère que vous allez bien. Peut-être êtes-vous en vacances, peut-être vous apprêtez-vous à prendre quelques jours. Dans cette émission, nous allons regarder du côté des États-Unis. Les chroniqueurs sont au repos, alors à quelques mois de l'élection présidentielle américaine qui captive le monde entier, je vous propose de redécouvrir deux pages de l'histoire culturelle des États-Unis. Deux œuvres qui nous emmènent dans le sud du pays, bien loin des grandes villes et de la société policée des côtes. Deux histoires qui, à leur façon, racontent les États-Unis d'hier, mais surtout d'aujourd'hui. À la fin de cette émission, nous nous plongerons dans les années 30, aux racines du blues, grâce à un formidable roman graphique qui revient sur l'histoire du musicien Robert Johnson, une sorte de clochard céleste errant sur les routes du sud et dont la voix et le jeu de guitare ont été enregistrés. Nous avons interviewé Franck Duchazeau qui redonne vie par son dessin à Robert Johnson dans Les derniers jours de Robert Johnson, c'est chez Sarbacane. Mais avant le blues, place aux femmes. Et quelles femmes ? Thelma et Louise. Le film de Ridley Scott est sorti en 1991. Il a fasciné des générations de femmes et parmi elles, les journalistes Catherine Fay et Marine Saint-Clémente. Plus de 30 ans plus tard, elles ont décidé de prendre la route et de retracer la folle course-poursuite de nos deux héroïnes. Ça donne un livre formidable, un road movie qui raconte les États-Unis d'aujourd'hui, mais aussi l'impact du film. C'est aussi une histoire d'amitié. Catherine Fay et Marine Saint-Clémente ont 30 ans d'écart et forcément des regards différents sur le film et la condition des femmes. Leur livre s'appelle « À la vie, à la mort » et il est publié chez Paulsen.
Effervescence, le magazine de l'étonnement culturel.
Thelma et Louise, c'est un film culte du cinéma américain. Il sort en 1991, je vous l'ai dit. Sous la caméra de Ridley Scott, Susan Sarandon et Gina Davis sont réunis pour leur plus beau rôle. Et chacun se souvient de cette image mythique, l'image de fin, leur voiture en plein vol plané au-dessus du Colorado. Alors un peu plus de 30 ans plus tard, Catherine Fay et Marine Saint-Clémente ont donc décidé de refaire leur périple. Cela donne un récit à deux voix à travers les États-Unis sur la piste de Thelma et Louise. Alors c'est pas facile de caler un rendez-vous avec elles. Catherine Fay et Marine Saint-Clémente sont grands reporters, donc forcément elles bougent. Et ce jour-là, si Catherine Fay était bien chez Paulsen, son éditeur, boulevard Saint-Germain à Paris, Marine était-elle en Allemagne ? Bon, pas grave, Marine sera avec nous par WhatsApp. On va écouter la bande-annonce du film et ensuite, Catherine présentera Marine et Marine, Catherine.
I left him a note. I left him stuffed in microwave.
Oh, that's good. That's just sweet.
We're going one more day and then we'll be home for a
night. You get your butt back here, Thelma, now.
God damn it!
You said Jimmy was going to get out of town and for once just really let our hair down. Well, darling, look out, because my hair is coming down.
Est une jeune femme de 27 ans qui est journaliste et avec qui nous coécrivons des récits de voyage. Alors la présenter, c'est à la fois compliqué et émouvant parce que c'est quelqu'un que j'aime profondément et on a une relation tout à fait particulière puisqu'on a 30 ans de différence, on a une amitié extraordinaire et une quête profonde qu'on essaie de mener en route à l'étranger et au fil de rencontres.
Marine, à votre tour, est-ce que vous pouvez présenter Catherine ?
Bien sûr. Alors Catherine, d'un point de vue très professionnel, parce que commençons un peu par la théorie, elle est auteure de deux romans et en plus des récits de voyage que nous avons coécrits. C'est une personne qui est très drôle, très attachante pour beaucoup de raisons. Et cette amitié, en effet, qu'on a ensemble, on ne l'explique pas vraiment. mais je pense qu'on a quand même des valeurs, un socle de valeurs communes qui nous relie.
On aura l'occasion peut-être de revenir sur ces valeurs communes qui vous relient. Est-ce que, peut-être commencer par vous Catherine Fay, est-ce que vous pouvez nous rappeler l'histoire de Thelma et Louise ?
Thelma et Louise sont deux amies, un petit peu peut-être comme Marine et moi-même, excepté qu'elles n'ont pas cette différence d'âge d'une trentaine d'années, qui vivent une vie assez simple finalement à Little Rock, en Arkansas, et qui décident un week-end de partir, pour l'une de laisser son mari, qui est vraiment un type pas très intéressant, pour 48 heures, et l'autre de s'amuser avec son amie. Et malheureusement, au moment où elles s'en vont, enfin quelques heures après, elles s'arrêtent dans un saloon. Elles boivent quelques verres et Thelma commence à danser avec un type qui l'emmène sur le parking, qui tente de la violer. Louise arrive à ce moment-là et a un revolver dans sa poche et va tirer sur ce type pour sauver son ami. À partir de ce moment-là, elles sont obligées de fuir et leur cavale commence avec la police et le FBI aux fesses à travers différents États des États-Unis, l'Arkansas, l'Oklahoma, le Nouveau-Mexique et l'Arizona.
Marine, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose pour cette histoire ?
Non, mais j'étais en train de me dire que c'était extrêmement complet. Ce qui nous a amusé dans ce film, évidemment, et pourquoi j'imagine il nous est resté autant en tête, malgré, comme Catherine disait, notre différence d'âge, c'est qu'en fait, c'est ce cheminement de ces deux femmes qui partent comme deux copines, avec beaucoup de légèreté, etc. Et puis, plus la situation devient grave, finalement, plus elles semblent se révéler et être vraiment qui elles sont au fond d'elles-mêmes et laisser exprimer des choses qu'elles n'ont jamais eu l'occasion de laisser exprimer. Et ça aussi, ça a été quelque chose d'assez assez fondateur pour nous.
Alors j'imagine que ce film, vous l'avez vu et revu des dizaines de fois. Est-ce que vous vous rappelez la première fois que vous l'avez vu ? Alors je me tourne d'abord vers vous, Catherine Fay.
Oui, bien sûr, parce que j'ai vu ce film, évidemment, au moment où il est sorti, en 1991. Et c'est curieux parce que c'était resté dans ma mémoire comme un film léger, de deux copines qui partent comme ça sur la route, avec cette image pourtant qui m'avait marqué, la scène de la fin, où la voiture s'envole au-dessus du Colorado, puisqu'elles n'ont plus le choix, elles sont acculées avec tous les flingues pointé sur elle dans cette impasse minérale, et j'avais gardé l'idée qu'elle s'envolait.
Marine, vous vous rappelez quelles ont été vos impressions lorsque vous l'avez vue pour la première fois ?
Alors moi, ce n'était pas en 91 parce que je n'étais encore pas même une idée, mais je l'ai vue quand j'étais adolescente. Ma maman me l'avait montré en me le présentant comme un film vraiment important et assez, assez emblématique. Et moi, à l'inverse de Catherine, et c'est ce qu'on raconte dans le livre, je me souvenais d'une fin assez tragique, en fait. Tout l'inverse.
Pourquoi c'est un film important pour vous, Marine ?
Pour moi, c'est un film important parce qu'il a posé, il y a 30 ans, des questions qui sont encore très contemporaines, des sujets de société, des combats qui n'ont pas encore été menés à leur terme. Donc le fait que ces thématiques soient aussi d'actualité aujourd'hui en fait un film qui était assez pionnier à l'époque.
Oui, et ce qui est intéressant, c'est que ce film n'a pas vieilli. D'ailleurs, quand on le revoit aujourd'hui, on n'a absolument aucune impression d'un film désuet ou autre. Ce que je trouve intéressant aussi, au-delà bien sûr des thématiques très très violentes, sociétales, etc., qu'il aborde, c'est qu'il est teinté d'humour et aussi d'une valeur qui, pour nous, Marine et moi, est essentielle, qui est l'amitié. Et il explore au fil de tout ce voyage différentes touches, différentes teintes de l'amitié qui évoluent au fil des problèmes que Thelma et Louise rencontrent.
Pourquoi, à votre avis, est-ce que autant de femmes se sont-elles identifiées au destin de Thelma et Louise ?
Parce qu'elles nous ressemblent. En fait, elles sont hyper, entre guillemets, normales. Ce sont des femmes qui, l'une est mariée, travaille pas, s'ennuie à la maison avec son mari, n'a pas encore d'enfant. L'autre travaille, est amoureuse d'un homme qui semble être attaché, mais qui n'arrive pas à s'engager. Voilà, elles ont une vie banale finalement, je ne dis pas que nous avons toutes des vies banales, mais il est plus facile de s'identifier avec des personnes qui n'ont rien d'extraordinaire qu'avec des personnages qui nous fascinent ou nous éblouissent.
Marine, vous aussi, vous avez réussi à vous identifier dans les personnages de Thelma et Louise ?
Alors, je trouve qu'on peut forcément s'identifier à certains aspects. Après, nous, dans notre cas, évidemment, on n'est pas ni dans la situation de Thelma ni de Louise. Nous, l'identification, elle s'est faite plutôt dans les Thelma et Louise qui prennent la route. Parce que cette envie de grands espaces et toujours d'aller au-delà, d'avancer en tout cas, est quelque chose qui est très fort toutes les deux. Donc je dirais plus que nous, alors pour ma part, mais Catherine peut-être aussi, on s'est plus identifié au Thelma et Louise en mouvement qu'au Thelma et Louise de la situation de départ.
Oui, et aussi au Thelma et Louise un peu dingo. Je dois dire, ça c'était hyper important.
De dire le un peu dingo, mais...
Voilà, donc sans limite, et qui vont toujours aller plus loin, dépasser les frontières, aller vers l'horizon, quitte à risquer le pire.
Oui, parce que c'est un film tragique, qui fait peur, quelque part.
Oui, il fait peur, et pas en même temps, parce que finalement, c'est un film qui est allégorique et qui est à l'image de la vie, je dirais. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a les choses simples, les choses réelles, les choses dures, les choses agréables. Donc, Thelma et Louise se retrouvent dans une situation vraiment épouvantable. Mais en même temps, en fuyant, elles vivent des moments simples de picoler, de rigoler, de chanter, de se témoigner de la tendresse, de se poser des questions, d'avancer dans la rencontre de l'autre, de mieux la comprendre.
Oui, en même temps, il fait peur, mais en discutant avec des gens qu'on a rencontrés au fil de la route, on a réalisé qu'en fait, personne ne s'en souvenait comme d'un film avec cette fin tragique. Les gens se souviennent évidemment de la scène finale, mais pas comme d'une chute, pas comme d'un suicide. C'est toujours, les gens ont un souvenir sympathique et agréable, finalement, de ce film.
Marine Saint-Clément, ce film, il est souvent présenté comme un film féministe, peut-être un des premiers films féministes. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ?
Alors, dans un sens, oui, parce que ces deux femmes, quand même, s'émancipent par rapport à leur vie, un peu, qui sont toutes les deux, à leur façon, sous la coupelle d'un homme. Et en même temps, si on regarde dans la réalité des faits, Thelma et Louise échouent complètement en termes de féminisme, parce que ça veut dire quoi ? C'est-à-dire, soit on accepte de vivre dans une société totalement patriarcale, soit on finit dans le ravin. Donc c'est vrai que c'est un peu en demi-teinte à ce niveau-là, disons.
Oui, et en plus, il y a un personnage extrêmement important dans ce film, qui est Holtz Lecombe, qui est le détective qui essaie d'aider Thelma et Louise, qui est interprétée par Harvey Keitel, et qui représente justement l'homme qui est du côté des femmes. Et donc, il y a quelque chose de tout à fait particulier dans ce film, qui n'est pas seulement deux femmes qui fuient le patriarcat, les hommes, la violence d'un homme, l'injustice, mais également deux femmes qui sont soutenues, épaulées sans arrêt dans ce triangle qu'il y a entre Thelma, Louise et le détective. Et ce personnage est très très important parce que il nous montre une image positive d'abord des hommes dans ce film où quand même beaucoup, la plupart des hommes sont dépeints de manière assez désagréable et tels des clichés. Et il nous montre peut-être une issue et puis aussi une réalité qui est qu'il y a beaucoup d'hommes du côté des femmes.
Vous diriez la même chose, Marine ?
Je dirais qu'il y a quelques hommes du côté des femmes, peut-être pas une majorité et que c'est dommage, mais quelques-uns, oui.
Justement, ça m'amuse parce que dans votre livre, qui est donc un récit de voyage, hein, on va y venir, vous vous confiez beaucoup sur votre propre vie, comment ce film, comment ce voyage fait écho à ce que vous avez pu vivre. Et on sent bien que votre amitié et les 30 ans qui vous séparent, il y a quand même des différences. Vous avez des convictions qui ne sont pas tout à fait les mêmes, en particulier en matière du féminisme. Alors, en quoi vos féminismes sont-ils différents ? Qu'est-ce qui vous sépare, Catherine ?
Alors, je pense que déjà, donc, ces 30 années sont très importantes, puisque j'ai grandi à une autre époque, avec d'autres discours qui étaient véhiculés aussi bien par la famille que par la vie quotidienne, que par la littérature, le cinéma, etc. Et puis, mon histoire personnelle, bien sûr, parce que cette aventure qu'on a menée aux États-Unis est une aventure à la fois humaine, intime, littéraire, bien sûr, au travers du film Thelma et Louise et au travers aussi d'une Amérique des extrêmes. Et ça nous a permis justement d'explorer cette frontière qu'il y a sans arrêt entre le bien et le mal, entre la douleur, la souffrance et le beau, le plaisir, etc. Alors, quand on est parti sur les traces de Thelma et Louise, j'étais encore dans une pensée très, très éloignée de celle de Marine, qui a évolué au fil du voyage. Alors, je ne dis pas qu'elle s'est totalement transformée, mais toutes les confidences que l'on a récoltées, en quelque sorte, au fil de la route, ont fait sauter des verrous dans l'histoire de ma vie et dans des choses vécues. Et il est vrai qu'à la fin du voyage, et surtout au cours de l'écriture, puisque au moment où on écrit, on pose des mots et on va donc beaucoup plus loin, je ne pensais pas la même chose qu'au début du voyage.
Marine, que diriez-vous sur vos différents féminismes ?
Oui, c'est exactement ça. Moi, j'ai peut-être un féminisme qui est plus celui de ma génération, un peu plus engagé. En tout cas, je considère comme acquis et comme définitif certaines choses qui ne le sont pas enfin en tout cas qui ne l'étaient pas pour Catherine, mais comme elle le disait, on a toutes les deux d'ailleurs beaucoup cheminé, on a beaucoup échangé, et c'est aussi la richesse de ce livre, je pense, c'est qu'on n'a pas besoin d'être d'accord sur tout pour faire des choses ensemble, et que nos discussions nous ont ouvert les yeux l'une et l'autre sur des choses, et moi peut-être d'être plus ouverte d'esprit, plus à l'écoute de certains propos qui n'étaient pas en accord avec les miens. Et je pense qu'en ce sens, oui, on a toutes les deux cheminé.
Alors, ce n'est pas la première fois que vous voyagez à deux pour écrire un livre. Alors, je ne sais pas si c'est à quatre mains, mais en tout cas, toutes les deux. Quelle est votre méthode de travail ?
Alors, notre méthode de travail est à l'image, je pense, de notre amitié. C'est-à-dire, déjà, il y a quelque chose de mystérieux. Il y a quelque chose, on ne maîtrise pas totalement. On ne sait pas exactement comment on y va, mais on y va parce qu'on a très envie d'y aller ensemble. Et nos différences tissent finalement le récit. On écrit, alors chacune écrit un chapitre de façon à ce qu'il y ait une cadence particulière, et on y met chacune de nos compétences. Alors l'une sera peut-être un peu plus journalistique comme Marine, plus littéraire comme moi, mais en fin de compte Marine va écrire d'une certaine manière son chapitre, moi d'une autre manière le mien, et surtout on échange. C'est-à-dire que dès l'instant où on va aborder tel, on a décidé que dans tel chapitre on allait raconter cette scène-là, là, ou ce qui nous est arrivé là, ou ce qu'on nous a raconté là, on va se mettre l'une en face de l'autre en se disant, mais finalement, qu'est-ce qu'on a compris, qu'est-ce qu'on a entendu, et qu'est-ce qu'on va livrer au lecteur ? Finalement, il faut qu'on reste à notre place de passeuse. Oui, on est un duo un petit peu particulier qui partons comme ça sur les traces toujours de deux femmes, mais ce qui était important là dans ce livre, c'était de témoigner d'une Amérique, de donner la voix des femmes et des hommes qu'on a rencontrés sur la route sans porter aucun jugement, ni dans le positif, ni dans le négatif, juste recueillir leurs paroles et la restituer, alors évidemment en s'amusant dans l'écriture.
Oui, ce qui n'est pas évident aussi dans l'écriture, c'est en fait de choisir finalement. Parce que le livre contient peut-être 20% de ce qu'on a vécu, mais comment choisir ? Il y a des rencontres qui nous ont beaucoup touchées, mais de se demander est-ce que c'est vraiment pertinent pour le lecteur ? Et puis il y a des rencontres aussi qui nous ont particulièrement émues l'une ou l'autre. Dans ces cas-là, on essaye toujours... Enfin, on sait parfois à des moments, on se dit bon bah ce chapitre-là, je voudrais l'écrire, et on respecte ça aussi parce que c'est ce qui fait que écrire est un plaisir et de respecter les sensibilités de l'une et de l'autre.
Alors dans le livre, vous ne citez quasiment jamais, peut-être au début, mais j'ai l'impression que quasiment jamais vous ne citez les actrices, hein, Suzanne Sarandon et Gina Davis. Pour vous, Thelma et Louise existent vraiment ?
Oui, Thelma et Louise existent vraiment. En fait, Thelma et Louise, c'est Marine et moi, c'est vous et votre meilleure amie, c'est ces amitiés particulières et qui ressemblent à ces amitiés d'adolescence. Et c'est pas par hasard qu'on a donné comme titre à ce livre « À la vie, à la mort », parce que ce sont des amitiés où, vous savez, comme quand on était les scouts ou je sais pas, quand on était petite, on se coupait un petit peu la peau pour avoir du sang, on se mettait les poignets l'un contre l'autre pour échanger nos sangs, pour dire que jusqu'au bout, on avancerait ensemble.
Oui, et puis faut aussi dire que ce sont des rôles qui les ont révélés l'une et l'autre, parce qu'à la base, Thelma et Louise ne devaient pas être Tina Davis et Susan Sarandon, mais Michelle Pfeiffer et Jodie Foster. Et en fait, le temps de la production, des financements, etc., a été assez long. Et ces deux actrices-là ont dit nous, on va accepter d'autres rôles parce qu'on ne va pas attendre ce film des années. Et puis, des budgets étaient moindres. Et finalement, Ridley Scott s'est tourné vers deux actrices qui étaient un peu moins connues à l'époque et a choisi ces deux femmes-là. Donc, c'est aussi un rôle qui a été fondamental pour leur carrière. Et encore maintenant, je pense que si on montre la photo de ces deux actrices, beaucoup penseront immédiatement à Thelma et Louise. Donc, c'est aussi par l'importance que ces rôles ont eu pour leur carrière.
Faster than the speed of sound, faster than a speeding bullet. People living like Superman all day and all night. And I won't say if it's wrong, or I won't say if it's right. I'm pretty fast myself. But I do have some advice to pass along right here in the course of this song.
Better not look down if you want to keep on flying.
From Cupid's bow that had passed through her heart had been sticking out of her body, she'd look like a porcupine. And she asked me, she said, "BB, do you think I've lived my life all wrong?" And I said, "The only advice I have to pass along is concealed in this song. Girl,
better not look down if you want to keep on flying. Put the hell out down and keep it close to me here. Better not look down or you might just run.
Sunrise one morning in London, England, and that was this very large Rolls Royce limousine pulling slowly down the streets. And in this Rolls Royce limousine was the Queen of England, looking tired, just got back from a party. And the Queen leaned out and she said, "Aren't you B.B. King?" She said, "Oh, B.B., sometimes it seems so hard to try to pull things together. Could you tell me what you think I ought to do?" And I said,
"Better not look down if you wanna keep on flying. Put the hammer down and keep the full speed ahead. Better not look back or you might just wind up crying. You can keep it moving if you don't look down. Better not look down if you wanna keep on flying. Put the hammer down and keep the full speed ahead.
B.B. King, extrait de la bande-annonce de Thelma et Louise avec cette phrase « Mieux vaut ne pas regarder en arrière où tu finirais par pleurer, mieux vaut ne pas regarder vers le bas si tu veux continuer de voler ». On retrouve Catherine Fay et Marine Saint-Clément, toujours chez leur éditeur Paulsen pour Catherine et toujours depuis l'Allemagne pour Marine.
Effervescence, quand la culture fait briller les yeux.
Alors, on va s'intéresser à votre voyage maintenant. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit rappel? Par où sont-elles passées? Quelle route ont-elles emprunté? Quelle est l'Amérique de Thelma et Louise?
Alors, Thelma et Louise vivent à Little Rock, qui est la capitale de l'État de l'Arkansas, une petite ville, finalement, où elles s'ennuient. Et leur voyage, pas du tout un voyage, ce qui commence par une escapade. Vous voyez, en fait, c'est ça, ça rejoint la question que vous posiez précédemment. En fait, on est entremêlés, on ne sait plus tellement bien si on est nous, si on est Thelma et Louise, Suzanne Sarandon et Gina Davis. En fait, quelque chose s'est passé au cours de ce périple et au cours de l'écriture, et même maintenant quand on en parle, où tout est entremêlé. Bref, elles habitent à Little Rock et elles vont partir en week-end en espérant partir à quelques 200 km de là pour pêcher au bord d'un lac. Et après l'accident, donc la tentative de viol et le coup de feu fatal, elles sont obligées de prendre la poudre d'escampette. Et leur idée, c'est d'aller au Mexique pour pouvoir échapper à la police et survivre à ce qui est en train de leur arriver, parce qu'elles savent que ce qui leur pend en nez est dramatique. Ça pourrait être la prison, voire la peine de mort, parce qu'on est aux États-Unis. Donc, elles traversent l'Arkansas, puis l'Oklahoma, et curieusement, elles ne vont pas traverser, logiquement, pour rejoindre le Mexique, il faudrait traverser le Texas. Elles ne vont pas traverser le Texas, car en réalité, on découvre au fil du film que Louise, elle-même, a été violée plus jeune dans l'État du Texas. Donc, elles passent par le Nouveau-Mexique, puis vont jusqu'en Arizona, parce que finalement, elles sont complètement... elles finissent par être perdues, ne savent plus comment s'en sortir. En réalité, le film n'a pas été tourné... la fin du film n'a pas été tournée en Arizona, mais dans l'État de l'Utah. Et ça, vous découvrirez dans le livre.
Vous, Marine, vous avez donc pris leur route. Vous avez traversé des paysages incroyables.
Oui, alors les paysages ont été incroyables, mais aussi très différents de ce qu'on imaginait. Parce qu'en effet, comme les scènes du film ont été tournées en Utah principalement, enfin pour plus de la moitié, en fait, les paysages qu'on voit dans le film sont les paysages de l'Utah et absolument pas de l'Arkansas ou de l'Oklahoma ou du Nouveau-Mexique. Donc c'est vrai qu'en plus, nous, on a eu cette surprise de naviguer entre des forêts, des étendues qui ressemblaient à la Mongolie, des prairies avec des bisons. Enfin, c'était... Donc on a eu la surprise de ce kaléidoscope de paysage qu'on n'a pas en revanche dans le film. Ça, c'est, la nature a eu une place importante aussi dans notre voyage, évidemment.
30 ans après le film, et là je vais commencer par Marine, est-ce que vous avez retrouvé l'Amérique de Thelma et Louise? Est-ce que vous l'avez reconnue?
Oui, alors on n'a pas tout, tout n'est pas semblable, mais il y a quand même beaucoup de choses qui se ressemblent. À la seule différence que nous, notre aventure a été quand même fondée sur les rencontres. Ce qui est beaucoup plus épisodique pour Thelma et Louise, comme elles sont en cavale, leur but n'est pas de rencontrer la moitié de la population des États traversés, alors que nous, c'était un florilège. Dès qu'on s'arrêtait dans une station-service, on parlait à tout le monde, les gens venaient discuter, etc. Donc on était dans deux démarches différentes, ce qui fait qu'on a eu peut-être une Amérique... je dirais presque un peu moins stéréotypée à certains égards.
Catherine ?
Oui, et puis comme le disait justement Marine précédemment, le film a été tourné pour moitié dans l'Utah et le reste du film dans la région, finalement dans la banlieue et la campagne autour de Los Angeles. Rien n'a été tourné ni en Arkansas, ni en Oklahoma, ni au Nouveau-Mexique. Et ça, c'est important puisque nous, on a pris le temps, on a voyagé pendant 2 mois, on a parcouru 10 000 kilomètres de traverser des États finalement qu'on ne voit pas dans le film, qu'on ne découvre pas dans le film. Et c'est ce qui a fait l'objet justement de toutes ces rencontres incroyables qu'on a eues. Le hasard des rencontres, des moments partagés, et qui nous a dépeint une Amérique tout à fait particulière, avec des choses absolument magnifiques, des choses douloureuses, des choses extrêmes et violentes, et qui ne sont pas montrées dans le film, puisque en réalité, c'est pas l'objet du film. Le film, c'est on va à toute vitesse, on file. Est-ce que l'Amérique a changé? Oui et non. Moi, je dirais que quelque chose est resté, surtout dans les États où on est passé, qui sont des États du Sud et du Sud-Ouest des États-Unis, donc des États un peu oubliés des radars. On est vraiment bien loin des grandes villes comme New York, Los Angeles, Chicago ou autres. Et quelque chose perdure, quelque chose de l'ordre d'un temps qui est différent, d'une pensée qui est différente, de gens qui luttent, de choses difficiles, d'États comme l'Arkansas ou l'Oklahoma, où le racisme, la violence, la, la place des femmes a encore beaucoup de chemin à parcourir pour que les choses changent. Et puis des gens, des générations de personnes dans des familles, que soient des familles de cow-boys chez qui on a vécu, ou des personnes qui s'accrochent pour survivre. Donc je pense que de ce côté-là, non, ça n'a pas vraiment changé.
Ben je suis d'accord avec ce que dit Catherine. Après, dans toutes ces situations, même pour les gens qui luttent, etc., on sent qu'il y a quand même un espoir. Tout le monde espère que sa vie sera mieux at some point, comme ils disent. Ça fait vraiment partie de la mentalité américaine, finalement. On pourra toujours s'en sortir à un moment.
Alors, vous avez évoqué les rencontres, et c'est vrai qu'on est frappé par la diversité des rencontres que vous faites, et ça crée un portrait de la société américaine qui est vraiment original, auquel on ne s'attend peut-être pas forcément depuis la France. Est-ce que, des mois après votre retour, il y a un visage que vous retenez encore aujourd'hui, Marine ?
Ah oui, ben je pense qu'on a toutes les deux pensé immédiatement à la même chose. C'est Louis, notre guide Navarro, qui a été un personnage très marquant parce qu'il nous a permis de prendre du recul sur certaines choses, d'observer la nature, d'avoir un regard sur la flore, les déserts, un peu différent, en tout cas en nous donnant quelques clés de sa culture. Et Louis est venu en France depuis, c'est vraiment, on a tissé des liens amicaux très forts avec lui, et on va refaire quelque chose avec lui très bientôt, mais ça c'est encore, on peut pas encore trop en parler.
Catherine Faye, et parmi les femmes que vous avez rencontrées, une américaine que vous avez envie de rappeler ?
Oui, bien sûr, il y en a une qui vient immédiatement comme ça, à qui je pense tout de suite, c'est Sunny, qu'on a rencontrée au Nouveau-Mexique, une femme d'une cinquantaine d'années, mais enfin, une femme sublime, avec une histoire terrible, qui a grandi au sein d'une secte, qui a été violée de l'âge de 8 ans à 18 ans par le grand gourou de cette secte, qui est une secte très connue d'un certain yoga. Et Sunny s'est enfuie à l'âge de 18 ans de cette secte. Elle a grandi donc de sa naissance à ses 18 ans dans un monde clos, un monde fermé. Et elle s'est retrouvée comme projetée, comme elle dit, sur une autre planète. Et elle savait qu'il fallait qu'elle sauve sa peau. Elle a traversé les États-Unis, puisqu'elle a grandi au Nouveau-Mexique et qu'elle est allée jusqu'à New York, où elle est devenue mannequin. Mais elle a eu une histoire difficile, parce que c'est pas parce que, enfin bon, elle était mannequin juste pour gagner sa vie. Ses relations avec les hommes, évidemment, ont été totalement abîmées. Parce qu'elle a vécu dans son enfance, jusqu'à ce qu'elle finisse par décider de revenir au Nouveau-Mexique. Et c'est une jeune femme à l'époque, enfin c'est une femme maintenant, mais c'était une jeune femme qui montait à cheval, et elle a une passion pour l'équitation et les chevaux. Et elle a décidé de s'occuper des femmes qui ont subi des violences sexuelles ou autres, et de leur permettre de retrouver un équilibre, de se soigner, entre guillemets, puisque est-ce qu'on se soigne vraiment, à travers l'équithérapie, donc dans son ranch qui est juste à côté du Colorado, à côté de Taos, au Nouveau-Mexique.
En France, on s'inquiète beaucoup d'une possible réélection de Donald Trump. Est-ce que dans ce que vous avez vu, il y a des choses qui confortent cette idée ?
C'est très difficile de répondre à cette question. Et je n'aime pas trop m'aventurer sur ce terrain-là. Bien sûr qu'il y a une inquiétude, mais je dirais que ce n'est pas tant l'affaire des États-Unis, c'est l'affaire, une affaire planétaire, quelque chose que l'on voit un peu partout, que ce soit aux États-Unis, que ce soit ce qui vient de se passer, enfin les élections en Argentine, ce qui peut-être se profile en France, je ne sais pas, mais oui, bien sûr, puisque en fait on est dans un monde de peur. Et de peur qui génère de la peur, et aussi, oui, d'espoir certes, mais aussi de murs qui grimpent comme ça, avec des idées négatives, enfin et réelles, de réchauffement climatique, de dérèglement, de tellement de choses. Et je ne sais pas, c'est peut-être Marine qui va mieux vous répondre, je ne sais pas comment la jeunesse se projette dans ce monde-là.
Marine ?
Non, je pense qu'en effet, ce que dit Catherine, la peur est au centre de tout. Parce que, alors, nous, plutôt que de de chercher à savoir si les gens allaient voter Trump ou pas. On s'est plutôt interrogé sur pourquoi ces gens du milieu votaient Trump, sans les juger, justement avec notre regard de Françaises qui se disent « Oh là là, ces gens votent Trump, c'est une catastrophe ». Voilà, on a vraiment cherché à comprendre pourquoi. Et parce que ces gens... En l'occurrence, je pense à Jane et Bob de l'Oklahoma, nous disaient, nous, les revendications des démocrates sont tellement déconnectées de notre vie dans le centre du pays, sont tellement des choses, des gens, des idées, des questionnements des gens des villes, de la côte, que nous, on se sent abandonnés. Et tous reprennent le même argument, c'est que quand Trump était au pouvoir, l'économie était bonne. Et ce sont des gens qui ont peur, évidemment, qu'un immigré, ils ne savent pas ce que c'est, ils ont peur qu'un immigré prenne leur place, parce que la vie est de plus en plus dure. Avant, le rêve américain, pour eux, c'était comme leurs parents, d'avoir une maison, d'avoir un camping-car, un bateau. Aujourd'hui, ils se rendent compte que c'est plus forcément possible, et automatiquement, ils remettent la faute sur quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est l'autre qu'ils ne connaissent pas. Donc oui, la peur est un sujet, mais comme dit Catherine, c'est un sujet partout, et évidemment, le personnage de Trump, par sa flamboyance dans le sens négatif du terme, inquiète particulièrement, mais il y a d'autres pays où on a des raisons d'être inquiets, et le nôtre aussi sûrement, donc voilà, relativiser un petit peu aussi.
Dans votre livre, il y a énormément de musique, c'était déjà le cas dans votre précédent voyage, ou c'est propre à ce voyage-là ?
Alors, c'est propre à ce voyage-là. D'abord, le film, la bande originale du film Thelma et Louise est absolument exceptionnelle et on a tous en mémoire plusieurs morceaux du film. Mais c'est pas seulement ça, c'est que les États-Unis, c'est la musique. Les États-Unis, ce sont tous ces compositeurs qui sont dans nos fibres, dans notre pensée. C'est Neil Young, c'est Bob Dylan, c'est Bruce Springsteen, c'est Marianne Faithfull. Alors oui, la musique est hyper importante, comme Thelma et Louise qui écoutaient de la musique toujours au volant de leur voiture. Nous, on a écouté de la musique pendant vraiment le long de toute notre route. La musique aux États-Unis, la chanson, les musiciens nous disent l'Amérique. Donc forcément, c'est venu nourrir et notre périple et l'écriture de ce texte, parce que les paroles des chansons américaines sont extrêmement importantes aussi. Elles nous racontent aussi bien l'Amérique que les sentiments, que justement ces extrêmes que l'on a pu découvrir au fil de notre aventure, et la vie simple des gens, et notamment toutes ces personnes qu'on a interrogées, qui se sont confiées à nous, qui nous ont reçues chez elles, et qui nous ont confié des choses extrêmement intimes.
Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant de nous quitter ? On a dit l'essentiel ?
Je pense qu'on a dit l'essentiel.
Oui, mais je pense...
Ce qu'on pourrait dire, c'est que ce film est quand même une incitation à s'écouter, et à faire ce qu'on a envie de faire intimement, sans se soucier de ce que les autres vont en penser. Et c'est vrai que nous, on est plutôt du genre à encourager ça.
Et une incitation à avancer et à ne jamais lâcher, et à toujours rester ouvert à l'autre, parce que c'est à travers l'autre qu'on se révèle.
Et c'est avec Marianne Faithfull qu'on quitte Catherine Faye et Marine Saint-Clémente. Leur livre « À la vie, à la mort, sur la route avec Thelma et Louise » est publié chez Paulsen. After work, and the kids were off to school.
power of so many ways for her to spend a day. She could clean the house for hours or rearrange the flowers or run naked through the shady street screaming all the way. At the age of 37 she let the phone keep ringing as she sat there softly singing pretty nursery rhymes she'd memorized in her daddy's easy chair. The evening sun touched gently on the eyes of Lucy Jordan on the rooftop where she climbed when all the laughter grew too loud. Then she bowed and cursed to the man who reached and offered her his hand, and he led her down to the long white car that waited past the found forever as she rode along through Paris with a warm wind in her hair.
Effervescence, Stéphanie Gallet.
France Duchazeau, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de publier aux éditions Sarbacane un album tout bleu, un album qui parle de blues, qui parle d'un des pères fondateurs du blues. C'est Les derniers jours de Robert Johnson. Comment est-ce que vous avez rencontré Robert Johnson ?
Alors Robert Johnson, je l'ai rencontré dans un magazine la première fois, dans un article dans le magazine Best de 91. Et donc c'était un article de Patrick Hudlin qui dressait des louanges sur ce personnage, parce qu'un disque double CD était sorti à ce moment-là, et c'était la première fois que Robert Johnson sortait en CD. Et donc j'ai l'article tellement élogieux. Et puis cette photo de Robert Johnson sur la pochette du disque m'avait complètement fasciné, quoi. Je me disais, mais voilà, dans ces années-là, on faisait déjà du blues. Enfin, à 20 ans, c'était étrange de voir un type comme ça, qui avec une photo très ancienne et qui avait une guitare dans les mains, et je me demandais à quoi pouvait ressembler la musique de cet homme-là, quoi. Donc j'ai acheté le CD et la première fois, j'ai pas compris vraiment la musique de Robert Johnson. Ça me semblait très loin, ça craquait beaucoup. C'est une musique qui venait de très très de loin dans le temps.
Ces années-là, c'est les années 20-30, c'est ça ?
Les enregistrements, ouais, c'est les milieux des années 30. Donc, pour un gamin de 20 ans dans les années 90 qui écoute ça, c'est plutôt rebutant, en fait, au premier abord. Et après, j'ai redécouvert Robert Johnson bien plus tard avec une série de documentaires DVD de Scorsese qui parlait de lui et qui mettait des images sur le personnage.
Je voudrais qu'on revienne sur la photo. À quoi il ressemble sur la photo ?
Ben sur la photo, on voit un homme en costard cravate qui pose comme on faisait à l'époque dans un studio, et il a une guitare entre les mains, et c'est une photo noir et blanc qui paraît vraiment très vieille, quoi. Il a un grand sourire, et cette photo m'a fasciné pendant longtemps. Et d'ailleurs, l'idée de faire l'album m'est venue il y a 4 ans quand une nouvelle photo de Robert Johnson est apparue, parce qu'il y en a 3 qui existent maintenant. Et on le voit tout sourire aussi en gros plan avec la guitare. Et je l'ai immédiatement reconnu, et parce qu'il y a beaucoup de photos fantaisistes comme ça qui traînent sur Robert Johnson et qui sont complètement... on reconnaît que c'est pas lui, mais... Et là, cette photo a surgi comme ça du passé, et j'ai vraiment tout de suite reconnu le personnage qui m'avait fasciné à l'époque. Et du coup, voilà, pendant un an, ça a mûri dans ma tête. Je me suis dit, mais j'étais vraiment, j'y revenais sans cesse à cette photo. Et ça m'a donné envie de continuer ma poursuite dans le blues, là, c'est-à-dire que j'avais fait Meteor Sim avant, en 2008. J'ai eu envie de passer du temps avec Robert comme un ami, quoi.
Alors, racontez-nous qui est Robert Johnson ?
Robert Johnson, c'est un musicien qui vivait dans les années 20-30 et qui était bluesman et qui vivait dans le sud des États-Unis. Et il fait partie des nombreux bluesmen qui itinéraient dans les bars du coin et qui essayaient de se faire une place et qui jouaient comme ça devant un public. Et rarement, on les enregistrait. Et quand ils arrivaient à être enregistrés pour $100 pour 4 titres, eux considéraient qu'ils étaient à l'équivalent du président de la République, quoi. C'était vraiment le Graal pour eux, quoi. Quand ils entendaient leurs disques jouer dans les jukebox de l'époque, qui commençaient à fleurir aux quatre coins du pays, c'était voilà, ils demandaient pas plus, en fait. c'était pourtant les ventes de disques étaient très basses à l'époque, c'était très peu, hein, mais peu de gens pouvaient s'acheter des disques et tout, mais pour eux, c'était le sacré Graal, quoi. Et donc, ils vivaient comme ça, ils vivotaient de bar en bar, à jouer, et à boire et à faire de mauvaises rencontres la plupart du temps. D'ailleurs, souvent, ils mouraient assez jeunes, ils avaient une vie assez courte, quoi. C'était un musicien itinérant qui jouait surtout dans le sud des États-Unis, mais qui parfois pouvait aller dans les grandes cités comme New York ou Chicago, essayer de se faire une place pour essayer de gagner un peu en auditoire.
Vous racontez son immense pauvreté, hein, parce que même posséder une guitare, c'était compliqué pour lui. Et en même temps, c'est un dandy, un flambeur, un écorché vif.
Bah déjà, se payer une guitare, c'était pas donné à tout le monde. Il fallait beaucoup travailler dans les champs. Et puis, de toute façon, avec la vie qu'il a eue, c'est-à-dire une vie de bâton de chaise, quoi. C'est-à-dire, il vivait dans des shotgun houses, cette espèce de maison en bois sans confort matériel. On travaillait 15-16 heures par jour dans les champs. C'est une vie comme ça de paysan, ensuite d'itinérant sur les routes poussiéreuses du sud avec une guitare dans les mains et puis on dort où on peut, quoi. Une vie de clochard, en fait, une vie de clochard céleste, on va dire.
Quelle est la situation des Noirs aux États-Unis dans ces années 30?
Ah ben, la situation, on la connaît, hein. C'est vivre dans la peau d'un éternel fugitif, je dis dans l'album.
À un moment, vous lui faites dire « on s'en sort pas mal ». Ça veut dire quoi pour un noir dans l'Amérique des années 30 ?« On s'en sort pas mal ».
Ben, on s'en sort pas mal dans le sens où ils arrivent quand même à faire ce qu'ils veulent. Il faut avoir beaucoup de courage à l'époque. Il faut savoir pourquoi on vit, en fait. Moi, c'est ça qui m'intéresse aussi dans ce que je raconte en général dans mes albums. C'est une force qui vous mène vers quelque chose. Et vous pouvez pas vivre sans, en fait. C'est-à-dire que eux ne peuvent pas vivre sans faire de musique. Donc, même si on doit payer le prix et gagner peu et avoir une vie difficile, on préfère quand même plutôt que de subir sa vie, quoi.
Dans votre histoire, vous racontez aussi l'histoire d'un concert mythique auquel est convié Robert Johnson, mais il n'y a pas de communication à l'époque, donc la difficulté, c'est de trouver le musicien et de l'amener à la salle de concert. Et, alors, je ne sais pas si vous l'avez imaginé ou si c'est vrai, mais il y a deux personnes qui vont descendre de New York pour essayer de le trouver, c'est ça?
Bah, c'est vrai, en fait. C'est John Hammond qui avait programmé un grand événement pour la musique noire à New York en décembre 38. Il avait convié beaucoup d'artistes à venir. Il y avait une affiche qui a été créé, et même sur l'affiche, il y a même le nom de Robert Johnson qui apparaît tout en bas de l'affiche. Sauf qu'ils n'ont jamais trouvé Robert Johnson. John Hammond a missionné deux blancs pour chercher ce Robert Johnson en question, pour l'inviter au festival, et ils l'ont jamais trouvé. Et à tel point que même quand ils ont fait l'affiche, ils pensaient encore le trouver, quoi. Donc, il était déjà mort, en fait. Donc c'est fou, quoi. Et pour deux blancs, c'était difficile d'arriver dans le sud comme ça et de se faire accepter par ces gens-là, parce que ils étaient très méfiants aussi, quoi. Et on peut les comprendre. Hein,
C'est vraiment la confrontation entre deux mondes. À la fin de votre album, vous remerciez beaucoup de monde et entre autres, en particulier, la photographe Dorothy Lange, qui est la photographe qui a photographié la Grande Dépression. Vous êtes beaucoup documenté pour dessiner l'Amérique de ces années-là.
Ben moi, j'aime beaucoup cette période en fait, et je suis fasciné par toutes les photos de la FSA, la Farm Security Administration, qui ont arpenté justement toutes ces régions-là pendant les années 30 pour photographier le patrimoine américain. Alors on enregistrait le patrimoine américain de façon sonore avec les musiciens, mais on le photographiait aussi. Donc Dorothy Lange, tous ces gens-là, Walker Evans, ont sillonné les routes du Sud pendant des années et ont enrichi le patrimoine visuel américain. Donc moi, j'aime énormément ça. D'ailleurs, je pense que j'ai fait l'album plus pour des raisons graphiques que pour des raisons musicales, dans le sens où une seule boîte de médicaments des années 30 me fascine, ou une boîte de cordes de guitare me fascine, parce que tout est très beau, en fait. Tout est très dessiné, les logos sont magnifiques, les publicités de l'époque sont très belles, je trouve qu'il y a un charme inouï, en fait. Ils mettent beaucoup d'art dans... Il y a de l'art dans tout ce qu'ils font, quoi, même dans la moindre boîte de médicaments. Donc, et ça, c'est le génie américain. C'est vraiment qui a disparu après, dans les années 50.
Alors, il y a la ville, mais il y a aussi la campagne. Hein. Il y a beaucoup de scènes de campagne, de plantation. Là, j'ai ouvert au pif à une page, je suis dans une scène de cimetière. Comment vous nous racontez un peu comment vous créez vos images ?
Robert Johnson, lui, il a pris la guitare dans un cimetière avec Ike Zimmerman, c'est lui qui lui a appris. Je me sers de documents qu'on peut trouver à la Library of Congress à Washington. J'aime bien l'idée qu'on soit tout de suite immergé dans l'ambiance, en fait. C'est pour moi, c'est très important. La raison, je pense, pour laquelle j'avais envie de faire cet album, c'était vraiment ça. C'était à la fois graphique et à la fois cette espèce d'immersion dans le Sud où on ressent la lourdeur du temps, du pays, c'est quelque chose qui me plaisait à montrer, en fait.
Je voudrais qu'on revienne à la musique de Robert Johnson, même si j'ai bien compris, c'est peut-être plus pour l'époque que pour sa musique que vous l'avez décidé. Mais qu'est-ce qu'il a inventé avec sa guitare ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui c'est une référence ?
Qu'est-ce qu'il a inventé ? Ben, il a inventé le walking bass. Probablement existait avant lui, mais c'est lui qui l'a popularisé. C'est une façon de jouer où on a l'impression qu'il y a deux guitares qui jouent, en fait. C'est-à-dire que il joue les basses avec la grosse corde et la mélodie avec les petites cordes. C'est difficile à expliquer à quelqu'un qui n'est pas guitariste. Généralement, on jouait à l'époque à deux, c'est-à-dire qu'il y en a un qui faisait les basses et l'autre la mélodie avec les petites cordes, sauf que lui faisait les deux en même temps avec ses longs doigts d'araignée. Et donc, il a inventé ça, qui a été repris beaucoup après par d'autres guitaristes dans les années 40, 50. Et on dit que c'est lui qui a inventé cette façon de jouer, en fait. Mais moi, en ayant écouté pas mal d'autres trucs plus anciens, je me suis rendu compte qu'il n'avait pas inventé ça. C'est encore une légende sur lui, quoi.
Comment est-ce qu'on dessine la musique, Franz Duchajot ?
Alors là, je me demande bien. Non, je sais pas. Je sais pas. C'est un ressenti. Je sais pas si c'est réussi ou pas. D'ailleurs, à un moment donné dans l'album, le personnage de Robert est devant un enfant. Où il parle d'une espèce de slide de bottleneck avec lequel on peut exprimer tous ses sentiments. Ben voilà, c'est ce que j'ai essayé de montrer en faisant glisser ce tube sur les cordes de guitare. J'ai essayé de mettre en image ce que on pouvait ressentir, enfin moi ce que je peux ressentir quand j'écoute de la musique, quoi. J'ai essayé de le montrer avec des images telles que moi je pouvais le percevoir, quoi. Après, c'est très compliqué de montrer la musique en image. C'est un ressenti, en fait. C'est comme le blues, quoi. C'est un ressenti. Soit on l'a, soit on l'a pas, quoi.
Qu'est-ce que cette histoire, elle nous dit du blues?
Qu'est-ce que cette histoire nous dit du blues? Alors là, enfin, j'ai l'impression que, en feuilletant l'album, on est quand même assez immergé par cette ambiance de blues, quoi. Dès la couverture, en fait. Dès la couverture qui, je pense, qui, sans le vouloir, est inspiré des pochettes Blue Note, la collection de disques merveilleuse de chez Blue Note. En un clin d'œil, on sait où on est, quoi.
Et Franz Duchajot, est-ce que cette histoire, elle nous parle aussi des États-Unis d'aujourd'hui ?
Ah ben, oui, ça nous parle aussi des États-Unis d'aujourd'hui, puisque finalement, peu de choses ont changé. Non. On ne fait que répéter sans cesse les mêmes erreurs. Voilà, il faut sans cesse rappeler les choses telles qu'elles se passent, quoi, là-bas. Il faut aussi être nuancé parce que les choses ne vont pas que dans un sens non plus. Mais ça nous rappelle, ça parle aussi des États-Unis d'aujourd'hui. Mais je sais, j'ai pas non plus voulu faire un album qui a un sens politique, quoi. Je voulais juste, moi, le but de mon projet, c'était d'accompagner Robert Johnson comme ça dans son errance, et puis voilà, montrer certains problèmes qui pouvaient se passer à l'époque, quoi.
Robert Johnson vous a accompagné aussi. Qu'est-ce qu'il vous a appris?
La chose qui compte pour moi, c'est pas ce qu'il m'a appris ou ce que j'ai appris, c'est d'avoir passé du temps avec ce personnage, en fait. Comme je vous disais, j'ai aimé errer avec lui dans le sud profond, quoi. J'ai aimé l'accompagner pendant presque 3 ans comme un pote avec qui on trace la route, quoi.
Franz Duchâteau, dans cette émission, on a aussi parlé de Thelma et Louise. Est-ce que c'est un film qui vous inspire?
Alors, je l'ai vu il n'y a pas très longtemps. Oui, j'ai bien aimé. Oui, j'aime bien ce côté un peu sauvage où on s'affranchit un peu des codes. Et comme ça revient à ce que je disais au début de l'entretien, c'est... pourquoi on est là? Est-ce qu'on a envie d'avoir une vie de routine où on subit les choses, ou est-ce qu'on prend les choses en main et on trace nous-mêmes, on choisit notre vie, quoi. Donc c'était un peu le thème de mon album. Et Thelma & Louise, il me semble que c'est un peu ça aussi, quoi. On a envie de casser la baraque, quoi.
Et voilà, vous connaissez maintenant l'histoire de ce tube Sweet Home Chicago. Vous connaissez l'histoire de Robert Johnson, que retrace Franz Duchâteau dans Les derniers jours de Robert Johnson, un magnifique roman graphique tout en noir et blanc, publié chez Sarbacane. C'est la fin de cette émission Effervescence. Merci à Pierre-Henri Paget pour la réalisation. Je vous retrouve la semaine prochaine avec les chroniqueurs. Et je ne vous laisse pas partir sans une citation. On la doit à Thelma. Je ne me souviens pas de m'être jamais senti aussi éveillé. Bon week-end à tous.